Et je suis actuellement dans un wagon, peut-être le point le plus historique de l'Europe au XXe siècle, un lieu où se sont succédés le maréchal Foch, Hitler, les présidents de la République, où seront demain d'ailleurs Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et nous allons évoquer tout d'abord ce wagon si spécifique, en décrypter les détails. Nous sommes en compagnie de deux historiens, Nicolas Beaupré, qui est spécialiste de la Première Guerre mondiale et maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne. Vous avez notamment publié Les Grandes Guerres 1914-1945. À côté de vous, un historien allemand, Arndt Weinrich. Bonjour à tous les deux. Arndt Weinrich, vous êtes chercheur à la Sorbonne et vous avez co-dirigé plusieurs ouvrages, dont La Grande Guerre vue d'en face. Et puis à côté de moi, Bernard Letang. Bonjour Bernard Letang. Vous êtes président de l'association Mémorial de l'Armistice, parce qu'il faut expliquer que ce wagon est au sein d'un Mémorial de l'Armistice, une association
ouais,
de passionnés.
1901, et depuis 1927, où Henri Fleming a donné de l'argent pour reconstruire un abri-musée, parce que le wagon a été donné à l'État français en 1921. De 21 à 27, il était aux Invalides dans la cour d'honneur. Et puis Henry Fleming, un riche américain de Pasadena, a donné de l'argent pour construire un abri-musée dans lequel il n'y avait que le wagon. Abri qui a été construit donc et inauguré le 11 novembre 1927.
Et c'est là où nous sommes actuellement dans ce wagon. Alors c'est un wagon qui est plein de boiseries, comme on peut imaginer un wagon du début du siècle précédent, et qui est partagé en trois parties. Là, nous avons tout d'abord une table, et cette table est précisément la table où a été signé cet armistice, Bernard.
Oui, alors ce wagon est en trois parties. Il y a la partie cuisine. De l'autre côté de la cloison, il y a la partie seconde classe. Et là, nous sommes en première classe. Bon, wagon-restaurant qui a été transformé aux ateliers du Landy en septembre 1918 pour devenir un wagon-bureau dans lequel il y a cette magnifique table autour de laquelle étaient assis les plénipotentiaires et le maréchal Foch, l'amiral Wemyss, le général Weygand et le vice-amiral Hopp.
Ce wagon, il faisait en réalité partie d'un train et il y avait en réalité deux trains. Expliquez-nous comment c'était à l'époque, Bernard Letang.
Il y avait deux trains. Pourquoi ? Parce que le maréchal Foch ne pouvait pas recevoir les plénipotentiaires allemands à Senlis. Senlis, où en août et septembre 1914, les Allemands avaient tué Eugène Audan, le maire de Senlis, et avaient incendié les deux rues principales, y compris la gare. Donc, il fallait un convoi ferroviaire. On l'a mis sur la position 103 d'artillerie lourde sur voie ferrée. Et ces deux trains, le premier, chacun de 10 voitures, parce qu'il fallait loger le maréchal Foch, il fallait loger l'amiral Wemyss, il fallait les nourrir, et il y avait ce wagon bureau. Et pareil pour le train des plénipotentiaires allemands, c'était un lieu de vie.
Entre les deux trains, un caillebotis, deux délégations. Tout d'abord, une délégation allemande, Arndt Weinrich. Et pour mener cette délégation allemande, un homme qui n'est pas du tout un militaire, Matthias Herzberger. Pourquoi ça n'est pas un militaire qui menait cette délégation ?
Eh bien, tout simplement parce que le nouveau gouvernement, avait décidé que ce devait être finalement un civil. Qui prenait cette responsabilité. Alors que initialement, c'était bien prévu qu'il devait y avoir un militaire pour diriger la commission. Ça a été changé dans un contexte politique très très dynamique en Allemagne à ce moment-là.
À partir de 1917, on peut dire que les appels au cessez-le-feu, les appels à l'armistice se multiplient un peu partout. Pourquoi cette date alors de novembre de 1918 ? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne pour que enfin la raison, si j'ose dire, parvienne à l'esprit des hommes ?
Il y a la révolution, bien sûr. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le centenaire précisément de l'abdication de Guillaume II et de la proclamation de la République de Weimar. Donc c'est tout à fait symbolique à cet égard que nous soyons là donc aujourd'hui. Mais plus important, évidemment, pour expliquer le moment de l'armistice, ce sont les conditions de la défaite militaire. Défaite qui est évidente à partir de l'été 1918 et qui va avoir pour conséquence que l'Allemagne ne peut tenir plus longtemps. Donc, en novembre 1918.
Ah oui, d'ailleurs, juste à côté de nous, il y a deux vieux postes téléphoniques. Et ces postes téléphoniques, ils servaient à quoi, Bernard ?
Un grand problème, c'est que le maréchal Foch a voulu un lieu loin du public pour être secret et qu'il n'y ait pas de problème. Par contre, il fallait être en communication constante avec, grâce au système UX qui était dans un fourgon, avec la Tour Eiffel.
Système UX, c'est un vieux système de télécommunication.
Oui, c'était il y a 100 ans. Hein. À l'époque, c'était le top. Et donc, via la Tour Eiffel, on communiquait avec Spa et Berlin pour savoir si les plénipotentiaires qui étaient ici, envoyés par le Reich, étaient toujours validés par la République de Weimar.
Et oui, parce que Arndt Weinreich, la situation était éminemment mouvante à l'époque en Allemagne.
Ah oui, donc quand Erzberger arrive, hein, donc il part en fait de l'Allemagne, des territoires occupés le 7 novembre. Il est ici donc jusqu'à la date du 11 novembre. Et entre temps intervient donc effectivement la chute du gouvernement impérial, l'abdication de Guillaume d'Eau. Donc il part représentant de l'Empire. Hein, il reviendra représentant de la République de Weimar.
Nicolas Beaupré, en face de cette délégation allemande, deux délégations alliées.
Oui, alors le personnage le plus important, c'est Ferdinand Foch, hein, puisqu'il est généralissime, donc il représente à la fois la France, hein, mais il représente l'ensemble des armées alliées, hein, puisqu'il commande depuis le mois de mars 1918 toutes les armées alliées, en fait. Hein, c'est une nouveauté de la Première Guerre mondiale. Hein, on est passé d'une coalition à un commandement unique, en fait. Hein, et donc, du coup, c'est lui le personnage le plus important, en fait, de la délégation.
Quel type d'homme est Foch ?
Alors Foch, c'est un officier, hein, c'est un général qui a fait une grande carrière, qui a commandé déjà dès le début de la guerre, hein, qui peu à peu en fait s'est hissé au commandement unique. D'ailleurs en rivalité avec d'autres généraux. Hein, et donc c'est un homme énergique. Hein, mais à la fin de la guerre, effectivement, il y a une opportunité qui est celle de signer un armistice, puisque en fait les alliés, hein, pensaient ne pouvoir gagner la guerre au plus tôt qu'au printemps 1919. Hein, et donc ils sont placés devant un choix à faire. Hein, soit on continue finalement et on poursuit la guerre jusqu'en Allemagne, peut-être au prix de la mort encore de dizaines de milliers de combattants, parce que les armées allemandes, en fait, d'un côté, il y en a une partie des soldats qui effectivement refusent de se battre, hein, mais d'autres, ceux qui sont en tout cas dans les premières lignes, même si ils sont moins nombreux, même s'ils combattent dans des conditions très difficiles, ils continuent de se battre. Et donc il y a un choix qui est fait, qui est un choix à la fois militaire mais aussi politique en fait, hein, qui est effectivement de choisir finalement de répondre, hein, aux demandes d'armistice allemande.
Et puis alors, dans ce mémorial de l'armistice, Bernard Letang, vous avez fait un travail considérable sur le plan historique, parce que Foch avait fixé des règles extrêmement précises pour cet armistice. Il voulait pas de photo, juste une.
Juste une. Et il y en a une qui est une photo volée, qui a été prise par le capitaine Louis Boutal, s'est dit, qui était le popotier du maréchal Foch, s'est dit, c'est embêtant, une photo qui va faire le tour du monde, je ne suis pas dessus. Donc il s'est mis derrière et il a fait prendre la photo. Et on voit bien que le maréchal Foch ne regarde plus l'appareil. Par contre, tout le monde est signé, y compris le maréchal Foch.
Donc vous avez reconstitué ce lieu, on est juste à côté de ce siège où s'est installé Foch, dans une ambiance absolument glaciale à l'époque. Nicolas Beaupré, il arrive en étant extrêmement tendu et les Allemands ont extrêmement peu de marge de manœuvre de négociation. Arndt Weinreich, quels sont en quelque sorte les conseils qu'on va donner à Matthias Erzberger, celui qui mène la délégation allemande, lorsqu'il arrive pour négocier la fin de la guerre?
Depuis Berlin, vous voulez dire. Ah, donc c'est une communication qui passe effectivement, comme ça a été dit, par télégraphie. Donc il est en communication en fait plus avec le haut commandement à Spa qu'avec Berlin à ce moment-là. Et bien, une fois qu'il aura communiqué les conditions de l'armistice au commandement et au gouvernement, voilà, la consigne sera donnée d'essayer d'obtenir quelques concessions, hein, ce qui sera chose faite sur un certain nombre de points, notamment qui sont les délais qui sont donnés à l'Allemagne pour évacuer une part les territoires occupés, mais enfin notamment la Rhénanie, hein, puisque les troupes allemandes doivent donc, suite à l'armistice, évacuer la Rhénanie, mais ce seront des concessions sur des points bien, bien précis et techniques. Et
qui Alors c'est très technique, par exemple, le nombre de chars, le nombre de kilomètres, bon, ça n'est pas seulement un point de détail, on le verra par la suite, mais où l'Allemagne doit désarmer les rives du Rhin.
Donc, donc la consigne fondamentale qui sera donnée, ce sera celle effectivement de signer. Hein, finalement, au dernier in extremis, voilà, les Allemands en sont là.
Nicolas Beaupré.
Ce qu'il faut savoir par rapport à ce qu'on disait auparavant, c'est que comme on fait le choix finalement de signer un armistice, l'enjeu du côté des alliés, hein, ça va être d'imposer des conditions les plus dures possibles, hein, et qui un armistice normalement c'est un arrêt temporaire des combats, hein, et mais qui en fait empêche toute reprise éventuelle des combats dont les conditions seront tellement dures en fait, hein, qu'elle s'apparente cet armistice, hein, c'est un armistice formellement, hein, mais il s'apparente d'une certaine manière à une capitulation, même si c'en est pas une, hein, et il prépare aussi, et c'est aussi quelque chose qui est très politique, hein, qui prépare déjà en fait la plupart des conditions qu'on retrouve dans la convention d'armistice, hein, qui fait 13 pages. On va les retrouver ensuite, elles vont être discutées lors des discussions de Paris qui vont préparer les traités de paix, quoi.
Et Bernard Letang, vous qui connaissez très bien ce mémorial que vous dirigez, mémorial de l'armistice situé à Compiègne, on est dans ce wagon. Il faut imaginer donc ces deux trains côte à côte, un train allié, un train allemand. Et alors là, il n'y a absolument aucune fraternisation. Ces gens-là, pourtant, vont vivre côte à côte quelques jours ensemble.
Oui, mais le maréchal Foch et le général Weygand n'inviteront pas les plénipotentiaires allemands. Certains sont catholiques à la messe le dimanche matin à Rotonde. Et quand ça sera signé à 5h15 le 11, Herzberger tendra la main au maréchal Foch qui ne répondra pas.
Et oui, c'est quand même assez incroyable parce que on imagine l'atmosphère glaciale qui règne dans ce lieu. Qu'est-ce que Foch se dit à cette époque, lui qui est militaire? Il se dit que l'Allemagne, elle, a agi de telle manière qu'il ne peut pas y avoir ni pardon, ni même une tentative d'apaiser ses relations.
Oui, l'armistice a été discuté entre les États-Unis et l'Allemagne et on a convaincu les Foch de faire signer ça, et il n'y a pas de discussion possible. C'est déjà dès le début, le 8 au matin, c'est comme ça. Vous venez pour... C'est ça.
Clémenceau dit que le problème, ça n'est pas tellement de gagner la guerre, mais désormais de gagner la paix. Et Arne Weinrich, cet homme, Matthias Herzberger, qui était assis à quelques mètres de là où nous sommes, sur ce siège en face de Ferdinand Foch, cet homme va devenir le symbole du coup de poignard dans le dos. Il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit.
Bon, ça c'est finalement l'idée suivante, laquelle l'Allemagne ne serait pas vaincue sur le plan militaire, hein, mais que s'il donc il y a eu cet armistice qui s'apparentait en fait à une capitulation, comme on a dit, ce serait donc à cause de la révolution et à cause de ceux notamment des criminels de novembre, hein, comme une certaine droite les a appelés à l'époque, qui auraient donc signé d'abord l'armistice. Et qui signeront donc plus tard le traité de Versailles. Hein. Et Herzberger, effectivement, c'est l'un des représentants les plus illustres, hein, de la jeune république, de la république naissante, donc qui représente le centre catholique, donc un parti républicain, donc à ce moment-là. Il emportera personnellement aussi les frais, hein, puisqu'il sera assassiné en 1921, en grande partie justement pour son engagement pour la signature à la fois de l'armistice et du traité de Versailles.
Et du côté des Français, Nicolas Beaupré, comment l'opinion réagit-elle?
Alors l'opinion, déjà donc l'armistice est signé le 11 au matin, hein, 5 heures du matin, hein, et dans les clauses de l'armistice, il est prévu qu'elle entre en vigueur 6 heures plus tard, hein, et donc 6 heures plus tard, c'est à 11 heures. Hein, et donc à 11 heures à l'arrière, la nouvelle est connue, sur le front également, hein, et donc il a des sentiments mêlés. Hein, c'est un moment de passage, hein, où effectivement, le premier élément, c'est un élément sonore, hein, c'est-à-dire que sur le front, par exemple, hein, on n'entend plus le canon. Hein, le canon s'arrête, hein, et donc on entend à nouveau les oiseaux, on entend à nouveau la nature d'une certaine manière, hein, et on n'entend pas plus ce bruit de la guerre, hein, qui était l'arrière-fond en fait du front pendant tout le conflit. Donc ça, c'est déjà un changement extrêmement important. Les soldats, eux, accueillent évidemment la nouvelle avec une grande joie, mais aussi avec circonspection, parce qu'il ne faut pas oublier que les combattants, ils savent que c'est un armistice, donc ils n'en connaissent pas encore tous les détails à ce moment-là. Armistice, c'est un arrêt provisoire du combat, hein, ils ne rentrent pas chez eux le 12 novembre, il n'est pas du tout prévu qu'ils rentrent chez eux le 12 novembre. Donc il y a la joie, mais il y a surtout du soulagement, en fait, hein. Un immense soulagement, hein. de ne plus, hein, c'est ce moment à partir de 11h, on ne risque plus d'être tué comme on pouvait l'être encore 10 minutes ou un quart d'heure avant, quoi.
Et oui, parce que rien n'a été laissé au hasard sur cette table. On est accoudé à cette table, Bernard Letang. On va signer, on choisit l'heure. Tout ceci est, je veux dire, extrêmement précis. Et on essaye de le faire pour que cette guerre se termine. Ou plutôt, comment ça se passe?
La guerre ne va pas se terminer, puisqu'on va signer à 5h15 et les clairons sonneront le cessez-le-feu à 11h. Et il y aura, par exemple, Augustin Trébuchon qui, pour essayer de traverser la Meuse à 10h45, sera tué. Hein, le président de la République qui a dû y aller hier à Vrigné-Meuse. Bon. Mais il est sûr que c'est pour l'ensemble des gens, c'est la joie, mais c'est la douleur dans la joie. Hein. C'est le terme qu'il faut bien retenir. C'est quand même la fin des combats, mais tout le monde a eu des morts ou des blessés dans les gens.
Mais dites-moi, Bernard Letang, il y a des choses qui ont changé dans ce wagon, puisqu'on voit, par exemple, dans la photo célèbre, on voit Hitler, parce que Hitler va revenir dans ce wagon en 40. On voit deux vitres qui séparent l'endroit où il y a les téléphones de l'endroit où il y a cette table. Ces vitres, aujourd'hui, elles ont disparu. Pourquoi elles sont où?
Là, elles ont été enlevées sous la demande de la présidence de la République pour la venue demain de Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, et du président Emmanuel Macron, président de la République française.
Qu'est-ce qu'ils vont faire ici?
On a enlevé la porte et les deux vitres pour des problèmes de réflexion sur les caméras.
Qu'est-ce qu'ils vont faire ici, Angela Merkel et Emmanuel Macron?
Ils vont signer à cet endroit-là, bien précis, le livre d'or qui a été... Ils vont signer les deux dernières pages. Aujourd'hui, il est encore à l'Élysée. Les deux dernières pages du livre d'or qui a été inauguré par la signature de Maréchal Foch et de l'amiral Wemyss en 1927.
Et l'on voit aussi tous les présidents de la République qui se sont succédés ici dans ce wagon où nous nous trouvons à Retond, dans cette clairière. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, parce que cette clairière, elle a été en réalité aménagée après la signature en 1922, suite à une demande d'un personnage qui était patriote, qui était aussi représentatif des ligues d'anciens combattants. On évoquera les suites de cet armistice, d'un armistice à l'autre, au cœur de ce qui va devenir, non pas la paix, hélas, mais une guerre de 30 ans. En attendant, d'autres informations sur le monde d'aujourd'hui, car il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Frédéric Seize. Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout à la voiture, je m'intéresse au train et plus précisément à un wagon, le wagon de l'armistice. Nous sommes dans la clairière de Retonde, à côté de Compiègne, à 75 km de Paris et à 1000 km de Berlin. On est dans le mémorial de l'armistice en compagnie de son président Bernard Letang et en compagnie de deux historiens, Nicolas Beaupré, spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui a notamment publié Le traumatisme de la Grande Guerre, et Arne Weinrich, qui est un autre historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et qui a notamment publié La Grande Guerre vue d'en face. Bernard Letang, on est à côté d'une photo du maréchal Pétain. Vous êtes sûr qu'il était maréchal?
Alors, il a été frappé d'indignité nationale en 1945, et donc normalement il a perdu tout titre distinctif. Hein.
Bon, ben on va peut-être effacer ce mot maréchal. Et comme je suis en compagnie de deux historiens et que la polémique évidemment est sur Pétain, a occupé nombre de journalistes et de commentateurs, eh bien j'ai envie de poser une question toute simple. Vous êtes Nicolas Beaupré, et l'idée de distinguer deux Pétains, est-ce que c'est une qui fait sens pour vous qui êtes historien?
Alors ça fait sens sur le plan historique, mais ça fait pas vraiment sens en fait du tout sur le plan mémoriel, quoi. Parce qu'on est après 1945, donc il est impossible de distinguer les deux. Mais surtout, ce que je voudrais dire en fait, c'est que tout a été dit ou presque sur cette polémique et dans cette polémique. Et ce qui est dommage finalement, c'est que la focalisation en fait autour de Pétain et plus généralement en fait autour des maréchaux et encore plus généralement presque autour de la victoire, fait perdre beaucoup de sens en fait à ce moment commémoratif quand même 100 ans après la Première Guerre mondiale, hein, qui, comme son nom l'indique, n'est pas que franco-française, parce que là on est finalement dans une sorte de guerre de mémoire franco-française, alors qu'on est censé commémorer une guerre mondiale et une guerre où, certes, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour certains l'ont gagné, certains l'ont perdu, donc il y a victoire d'un côté et défaite de l'autre, hein, mais cette victoire, c'est une victoire endeuillée, hein, comme l'a écrit Bruno Cabanne, hein, et le soulagement de 1918 masque, en fait, d'une certaine manière, supplante en fait la joie ou l'enthousiasme de la victoire. Et puis il faut ajouter aussi que là, certes, on est en France, on s'intéresse au cas de la France, mais que l'armistice concerne le front occidental et que la violence de guerre, malheureusement, elle continue bien après 1918. Donc c'est plutôt ce sens-là qu'il faudrait retenir en ce 100e anniversaire en fait de la fin sur le front occidental de la Première Guerre mondiale.
Et oui, effectivement, puisque on parle de guerre de 30 ans, on fait référence à l'autre guerre de 30 ans, celle de 1618 qui a débouché sur la construction de la notion d'État westphalien et qui a d'ailleurs largement contribué à la construction de l'Allemagne Hardwendrich. Lorsque l'on évoque l'armistice en France à côté de ce wagon, il faut aussi parler peut-être des autres armistices, puisque c'est cette matrice-là qui va conduire le monde à la guerre, le monde à la manière de somnambule que les hommes ont continué à être à cette époque.
Exactement. Donc l'armistice de Compiègne n'est finalement qu'un armistice parmi d'autres. Hein. Il y a sur le front oriental, notamment, toute une série d'armistices qui mettent fin donc au combat. Donc il y a le traité notamment de Mudros, hein, donc traité de, enfin l'armistice donc avec l'Empire ottoman. Il y a l'armistice de Saloniki et le traité donc plus tard de Villa Giusti, l'armistice de Villa Giusti. Donc effectivement, pour comprendre toute cette dimension mondial aussi de ce moment novembre 1918, il faut effectivement voir toute la panoplie des différents armistices. Et il faut aussi comprendre que donc au-delà de cette question donc des armistices sur les différents fronts, il y a aussi le fait que la guerre effectivement dans l'Est européen, elle va continuer. Hein. Et donc les années 1918-1923 effectivement seront des années extrêmement sanglantes avec jusqu'à 4 millions de victimes. Hein, avec donc un scénario de guerre civile, de tensions interethniques, etc., qui s'affirme, et ce qui fait effectivement que la période 1914-1918 que nous retenons habituellement, elle peut paraître contestable, hein, sur ce plan-là.
Et les hommes sont en place, on a parlé de Pétain, on ne va pas en reparler. Bernard, le temps d'un casque Adrian, un casque français, mais Churchill, il portait pas un casque Adrian ?
Si, c'était le seul Britannique à porter un casque Adrian. Mais le casque Adrian et les casques allemands et les casques anglais ont eu l'insigne mérite. Dans les premiers mois de la guerre, 80% des morts étaient dus à des blessures par fragments dans la tête. Et donc, au travers des képis et autres casques, alors que là, ça leur protégeait la tête et donc ça réduit le nombre de morts.
Et puis, on voit aussi l'armement, parce que comme à chaque guerre, il y a eu un certain nombre de ruptures technologiques dans l'armement. Peut-être que l'une des principales nouveautés de la guerre de 14-18, c'est l'apparition des chars. J'ai parlé du char Renault. Du côté allemand, je crois qu'on avait le char Schneider.
Non, les Allemands, c'était l'A7V. Vous aviez le premier char qui a été utilisé dans la bataille de Flers, dans la Somme, c'est le Mark. Après, il y avait le Saint-Chamond, le Schneider, le Renault FT-17 et le char allemand, mais il y en avait peu de chars allemands, ils n'y ont pas cru, l'A7V.
Dans quelle mesure, Hardwendrich, ce qui s'est déroulé sur le plan stratégique avec la guerre de 14-18 marque aussi une étape, parce que la guerre d'après qui se prépare sera complètement différente dans sa conception stratégique.
Et bien, la guerre, elle est la toile de fond, en fait. La guerre de 14-18 est la toile de fond de toutes les planifications de la guerre de la Wehrmacht, enfin de la Reichswehr de la Wehrmacht plus tard, pour la guerre qui se profile. Après, effectivement, il faut même éviter de tomber dans une lecture trop linéaire, effectivement, entre les deux guerres. Il me semble quand même que cette automaticité, hein, que la question, en quelque sorte, implique, paraît pas justifié.
Non, mais ce que l'on reproche, par exemple, à l'armée française, puisque nous sommes ici à côté de ce wagon de l'armistice, c'est de ne pas avoir tiré les leçons de la guerre de 14-18. C'est principalement De Gaulle, d'ailleurs, qui adresse cette critique aux généraux. Qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence, Nicolas Beaupré?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. En fait, il faut bien comprendre que l'horreur de la Première Guerre mondiale et la manière dont elle se déroule sur le sol français pendant tout le conflit, hein, est un élément aussi à prendre en compte au-delà même des stratégies. Donc l'objectif, en fait, des préparatifs militaires de l'après 1918, hein, ça va être de faire en sorte, hein, que la prochaine guerre ne ressemble pas à la précédente, hein, si guerre de défense il doit y avoir, parce qu'on anticipe éventuellement une guerre de défense, que ça soit pas une guerre de défense improvisée comme celle de la Première Guerre mondiale, et que donc ça soit une guerre de défense qui soit préparée en avance. Donc c'est pas si absurde, en fait. C'est vrai qu'à posteriori on peut dire oui, la ligne Maginot c'était une grave erreur, etc. Mais c'était pas si totalement idiot, hein, puisque l'idée était, en fait, qu'il fallait empêcher, hein, la reproduction. En fait.
C'était pas si idiot, mais quand même, la Nino, qui est-ce qui l'a électrifié?
Alors, c'est Siemens.
Siemens, en allemand, donc ils avaient les plans, au moins.
Oui.
Bon, bah ça, au moins, ça leur a fait du travail en moins. On est à côté d'une photo de Jean Binet, dit Binet-Valmer. Et alors, ça, des choses...
Clairière de Rotonde, elle a été créée
après l'armistice.
Elle a été créée, oui. Alors, suite à un article de Jean Binet-Valmer dans Le Matin, le 22 mai 1922, on a créé dans la forêt, parce qu'il y avait ces voies qui étaient perdues dans la forêt, qui n'avaient aucune raison d'être visibles. Hein. Donc, on a créé une clairière de 100 mètres de diamètre, au milieu de laquelle il y a une dalle sacrée, donc qui est la mort de 1 400 000 soldats français, une allée de la victoire, et qui nous amène au monument des Alsaciens-Lorrains. On a reconquis l'Alsace et la Moselle.
Et l'on continue à circuler tout autour de ce wagon, et l'on voit l'un des emblèmes de la guerre de 14-18 qui va avoir un poids et qui va faire basculer en quelque sorte les opinions publiques. Un ancien temps, Nicolas. Là, et vous êtes longuement revenu là-dessus dans vos écrits, car l'action des anciens combattants est particulièrement importante dans cet épisode de l'entre-deux-guerres.
Oui, alors c'est surtout Antoine Prost, hein, qui est le premier, qui est le président du conseil scientifique de la mission du centenaire, hein, qui dans sa thèse publiée en 1977, hein, a pris à bras-le-corps cette question des anciens combattants, hein, et a montré effectivement leur importance dans la société française, et on peut élargir, hein, plus généralement dans l'ensemble des sociétés européennes de l'après-Première Guerre mondiale. Effectivement, hein, les anciens combattants vont jouer un rôle important. C'est justement, hein, ces anciens combattants, ce qui est intéressant par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est celui de la fin de la guerre, c'est que le sentiment qu'ils ont après 1918, après 1919, après 1920, à l'égard de cette fin du conflit, montre bien toute l'ambiguïté du regard, déjà au moment de 1918, mais aussi de manière rétrospective, qu'ils portent sur cette fin de guerre. Hein, qui est effectivement, pour certains d'entre eux, une fierté, celle de la victoire, mais qui, pour l'immense majorité, est surtout un vécu, une expérience qui fonde une identité, hein, les incite, en fait, à défendre, hein, les options pacifistes pendant l'entre-deux-guerres, hein, à s'identifier, hein, notamment aux efforts de paix que fera le ministre des Affaires étrangères Aristide Briand.
Le pacifisme des Français avec les anciens combattants et le traumatisme de la guerre de 14-18, Arndt Weinrich, du côté allemand, les choses sont différentes.
Enfin, oui et non. Dans un premier temps, ce qu'il faut voir, que dans la première moitié des années 20, il y a quand même un pacifisme qui est très marqué, un mouvement pacifiste qui est très important, qui est aussi en très grande partie donc porté par des anciens combattants. Mais effectivement, ce qui pose problème dans le cas allemand, c'est la défaite. C'est aussi la manière dont la République de Weimar a donc pu naître de la défaite. Et donc du coup, il y a un vrai manque, un déficit de légitimité. Avec différents récits.
Enfin, le coup de poignard dans le dos.
Nationaliste, justement, j'allais y venir, avec cette idée du coup de poignard dans l'armée victorieuse, donc qui vont être repris par les groupements nationalistes d'extrême droite et qui seront effectivement une hypothèque tout à fait importante pour la République de Weimar tout le long de son existence.
Nicolas Beaupré.
Oui, si Yann me permet d'ajouter, ça se voit très bien dans le domaine de la littérature de guerre, notamment, puisque à la fin des années 20, on assiste à un retour de la guerre comme sujet littéraire et artistique, à la fois par les romans, mais aussi par le cinéma. Et dans le cas de l'Allemagne, on le voit très bien, puisque le livre qui remporte le plus grand succès, c'est le livre de Erich Maria Remarque, À l'Ouest Rien de Nouveau, qui est publié en 1929 et qui est immédiatement traduit dans plus de 50 langues dans le monde entier. Et ce livre, effectivement, propose une lecture, on va dire, pacifiste de la guerre. Bon, je résume, je simplifie. Mais en face, il y a aussi toute une littérature de guerre écrite également par des gens de la même génération que Erich Maria Remarque, c'est-à-dire des jeunes auteurs, qui, eux, proposent une toute autre lecture du conflit, une lecture beaucoup plus nationaliste, voire, pour certains, d'extrême droite, quoi.
Anne-Wenrich.
C'est justement dans ce contexte-là, que Nicolas vient de décrire, que le mouvement nazi, Hitler, va émerger, fondant sa légitimité, justement, en partie sur cette idée qu'il était le représentant légitime, le seul représentant légitime, en fait, des simples soldats allemands de la Grande Guerre, et qu'il avait de par ce fait-là, en fait, le droit de tenir les rênes du pays.
C'est Bernanos qui écrit dans Les Enfants Humiliés en 1941 que Hitler, il est le soldat inconnu, en fait. Il incarne d'une certaine manière ce soldat inconnu que les Allemands, d'ailleurs, ne sont pas parvenus à créer un récit commun, en fait, comme ont pu le faire les alliés, notamment autour de la question du soldat inconnu.
Je parlais d'une tragédie pour l'armistice, tout simplement parce que les conditions de l'armistice vont préparer la guerre d'après. C'est par exemple la thèse que défend l'économiste Keynes. Et je suis donc juste à côté de ce wagon de rotonde. Et là, Bernard Letan, dans ce mémorial, vous avez installé des billets de banque allemands.
Oui, parce que ce qui va marquer la rupture après 1919, on va vers la paix jusqu'à Locarno. Mais il arrive un malheur, c'est la crise de 1929. Et il va se trouver que l'Allemagne va être celle qui va supporter le plus mal. Ce qui vous achetiez au mois de février une vache, quatre mois après, vous achetiez qu'un beefsteak pour la même somme. Donc ça va être...
Ça va être effectivement une tragédie, une augmentation... drastique du nombre de chômeurs, 6 millions de chômeurs en 1932, un pays qui s'enfonce dans la crise économique, Anne-Wenrich.
Ah oui, tout à fait. Donc cette crise économique mondiale, elle est, comme l'a dit récemment un historien américain, peut-être l'événement le plus sous-estimé de l'histoire du XXe siècle, puisqu'effectivement, c'est vraiment à partir de ce moment-là, sur toile de fond de cette crise économique, que le parti nazi va prendre son envol, et qui lui va effectivement jouer en partie sur l'histoire, sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Il faut comprendre qu'en 1928 encore, aux législatives, le parti nazi ne va recueillir que 2,5% des voix, et que ce ne sera finalement que dans à partir de 1930, donc au moment où la crise s'intensifie, où il y a un chômage de masse, que le parti va vraiment percer sur la scène politique allemande.
Et puis c'est la montée des périls. Je suis en face d'une photo, de mars 1933. Hitler pouvoir en Allemagne. 30 janvier 1933, c'est un jeune avocat juif. On lui a fait porter une pancarte. Il est dans les rues de Munich. Je ne me plaindrai plus jamais de la police, peut-on lire sur cette affiche, on peut voir en quelque sorte que la matrice de la catastrophe est là, avec l'antisémitisme qui sert en quelque sorte de ciment à l'idéologie nazie et aussi au pan-germanisme.
Tout à fait. D'ailleurs, l'antisémitisme qui s'est justement radicalisé suite à l'expérience de la défaite. Hein, donc avec cette idée que les Juifs avaient une part primordiale dans la défaite allemande et dans le déclenchement, bien sûr, de la Révolution.
Nicolas Beaupré.
Oui, dans l'ascension d'Hitler, avant même encore la prise de pouvoir, la crise joue un rôle essentiel, mais tout autant, effectivement, aussi la mémoire de la guerre, et aussi la manière dont la République de Weimar essaye, elle aussi, il faut bien le dire, de réviser les traités, mais qui, pour les nazis, et c'est une manière trop molle, on va dire, pour résumer, de réviser. Et Hitler, en fait, en 1929, avant même la crise, il va aussi profiter d'une campagne contre le plan Jung, donc il y a un plan d'aménagement du paiement des réparations, d'annualisation du paiement des réparations. Il saisit l'opportunité que lui offre en fait la constitution de Weimar de faire organiser en fait un plébiscite pour ou contre le plan Jung. Et ce plébiscite va lui permettre notamment de nouer des contacts étroits avec d'autres franges droite allemande, une droite nationaliste plus classique, on va dire, qui est patrons de presse, du grand patronat, etc., qui vont lui permettre, là aussi, de trouver ensuite les soutiens financiers qui permettront aussi à son parti d'obtenir les succès électoraux après, effectivement, l'éclatement de la crise de 1929.
Et puis, on va d'une guerre à l'autre dans ce mémorial de l'armistice, Bernard Le Temps. Ce wagon, il a servi à la signature de l'armistice et, hélas, il va resservir. Expliquez-nous dans quelles circonstances, Bernard.
Là, on est dans la salle de la chute de la France, avec des fantassins allemands, fantassins français, un Stuka et un de Voitine. Et la France va lutter à Montcornet avec le général de Gaulle, la résistance de la ville de Lille et le général Janssen qui mourra pour permettre aux Anglais de réembarquer 300 000 soldats. Mais le but du caporal Hitler, c'est de faire défiler le 14 juin, les soldats allemands défilent sur l'avenue, pas des Champs-Élysées comme le pensent les gens, mais sur l'avenue Foch. C'est riche de sens. Et le 17 juin, quand il est à Brully-de-Pech en Belgique, qui reçoit le message du maréchal Pétain lui demandant les conditions d'armistice, c'est là où on le voit trépigner. Bon, et donc, il va dire à l'organisation Todt, je veux signer, écouter les conditions d'armistice de la bouche du général Keitel dans le wagon de l'armistice, à la place où il était dans la clairière, et moi je serai assis à la place du maréchal Foch.
Et là, on voit donc ce wagon qui est à côté de moi et Hein Weinrich. On voit Hitler arrivant dans ce wagon. Alors évidemment, pour que le wagon serve à nouveau, il a fallu faire toute une série de travaux. Il a fallu donc qu'il soit déplacé. On a détruit le bâtiment qui l'abritait, bâtiment qui avait été construit par un philanthrope américain. Hitler a utilisé ensuite ce wagon comme un symbole, Hein Weinrich.
Enfin, c'est tout à fait, ce qui fait aussi l'intérêt historique de ce lieu. C'est vraiment cette superposition de mémoire, ce condensé en fait d'histoire à la fois de la première, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et là, dans la manière dont les nazis vont agir, donc après la victoire militaire de 1940, on voit vraiment cette volonté d'exorciser la défaite, d'exorciser ce moment traumatique en fait de 1918. Et donc du coup, le wagon, il va servir, puisqu'il va pas juste servir au moment de la signature de l'armistice de juin 1940, mais il sera ensuite donc transporté, si vous voulez, à Berlin, où il sera exposé, donc, juste devant le château, devant la cathédrale, où les Allemands vont défiler, en fait, pour avoir la preuve tangible, si vous voulez, du fait que la défaite, la honte de la défaite de 1918, soit maintenant, lavée.
Bernard Le Temps, en quelques mots, qu'est-ce qui va arriver à ce wagon en 44?
Alors, ça lui arrive en 44. En décembre 44, Hitler décide de l'envoyer à Krawinkel, dans une base de munitions de la Luftwaffe. Et là, il va être sur une voie de garage. Et en 1945, en avril 1945, les forces américaines arrivent, bombardent le camp de concentration d'Ordruf. Les déportés sont libérés et ils vont mettre le feu aux baraques en bois, à des baraques en bois, entre lesquelles est le wagon. Et la partie supérieure en teck va brûler. Par contre, le châssis sera récupéré par les Soviétiques à leur arrivée au 1er juillet 1945 et servira de brouette sur rail dans une usine de la DDR jusqu'en 1974.
Et en un mot, comment vous l'avez récupéré, Bernard, le temps pour le mettre donc dans ce mémorial de l'armistice où nous sommes à côté de Compiègne?
Alors, celui-ci qui est là, c'est pas le 2419, mais c'est le 2439 de la même série qui a le permis de rouler depuis le 4 juin 1914, mais qui a été acheté à la Compagnie des wagons-lits en 1950 avec les dommages de guerre pour 1 franc.
Nicolas Beaupré, qu'est-ce qui symbolise aujourd'hui ce wagon? On a dit que dans cette itinérance mémorielle du président Macron, il s'agit d'abord de célébrer la paix. Ce wagon, il va y avoir donc Angela Merkel et Emmanuel Macron qui vont s'installer et s'asseoir à cette table.
Il va changer de sens, ce wagon, hein, puisque les inscriptions, en fait, c'était le wagon qui était le symbole de la victoire sur l'impérialisme prussien et allemand, hein, et par la signature, effectivement, du livre d'or par Emmanuel Macron et Angela Merkel, ce wagon va prendre un autre sens, hein, un sens effectivement qui s'inscrit dans une autre histoire, une histoire qui commence en 1918, hein, mais qui a connu bien des chaos, qui passe après la Deuxième Guerre mondiale par d'autres phases, hein, et qui est l'histoire du rapprochement et de la réconciliation franco-allemande. Donc ce wagon, hein, va s'inscrire dans une autre mémoire, pas seulement celle de la Première Guerre mondiale, et je pense que c'est le sens qu'il faut donner effectivement à cette cérémonie demain. Hein, l'inscription non plus seulement dans l'histoire des deux guerres, hein, mais d'un autre événement du XXe siècle qui est la réconciliation entre les deux pays.
Merci à nos historiens. Nicolas Beaupré, spécialiste de la Première Guerre mondiale, vous avez écrit Le traumatisme de la Grande Guerre. Arne Wenrich, on vous doit La Grande Guerre vue d'en face. Bernard Le Temps, vous êtes dans cette association le président. C'est vous qui êtes chargé de conserver ce lieu de mémoire.